Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Tania Adjitoma Mehana, c'est ça ?
C'est tout à fait ça.
Alors, vous êtes ici invité en tant qu'auteur à ce festival Est-Ouest consacré au Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce pays d'Iwa, comment le trouvez-vous ?
D'abord, juste une chose, c'est que je suis invitée en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur, puisque je dirige une maison d'édition que j'ai cofondée. Je trouve le pays très, très chaleureux. J'aime beaucoup les montagnes. En général, les montagnes m'angoissent, mais ici, il y a quelque chose qui fait que ces montagnes-là, elles ne sont pas du tout angoissantes. Elles sont rassurantes, peut-être parce qu'elles sont vertes, peut-être parce qu'elles sont loin, peut-être parce qu'elles sont... En tout cas, on a une impression d'être protégé. C'est comme une impression de suspension. Je trouve que dit est comme une entre parenthèses et ça me plaît bien. Ça fait 4 jours que je suis là. Je trouve que voilà, je me sens chez moi.
Est-ce qu'il y a une similitude avec le paysage de Beyrouth au niveau de la montagne ?
Le paysage de Beyrouth, il y a beaucoup de montagnes. En fait, c'est un pays qui est très varié dans ses paysages. C'est-à-dire, on a en même temps des étendues un peu désertiques, on a en même temps beaucoup de montagnes, on a la mer, bien sûr. Mais les montagnes sont en général plus arides, moins vertes, sauf près de la mer, sauf quand elles sont plus près de la mer. Non, c'est différent, c'est plus paisible ici. À Beyrouth, rien n'est... les paysages sont rarement paisibles, mais c'est un pays très intéressant au niveau de ses paysages aussi.
C'est un melting pot, le Liban, de nos jours encore ?
Ça a toujours été un melting pot et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Puisque le Liban est un mélange de gens qui sont très ancrés, des gens qui sont ancrés dans leurs racines libanaises, mais aussi énormément de gens qui sont venus, des populations entières qui se sont installées au Liban. Donc ça a commencé avec les Arméniens qui sont arrivés en 1900, dans les années 20, puis ensuite les Grecs d'Asie mineure, puis ensuite les Palestiniens, puis ensuite maintenant il y a les Irakiens, les chrétiens d'Irak qui sont venus aussi, il y a les Kurdes qui sont venus, et aujourd'hui on a les réfugiés syriens qui sont quand même au nombre de presque 2 millions, donc presque la moitié de la population libanaise. Donc bien sûr que c'est toujours été un melting pot, mais jusqu'à aujourd'hui où le problème des réfugiés est vraiment un problème. Avant, c'était plutôt une richesse. Moi, je trouve que c'est toujours une richesse d'accueillir du monde, des nouvelles. Il y a aussi eu, j'ai oublié de dire, beaucoup de gens d'Égypte. Donc ça a fait de la société libanaise une société assez riche quand même.
Alors, on va parler de vous, Tania, un petit peu. Vous êtes née à Beyrouth, vous y vivez encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans la littérature ? C'est par goût ?
En fait, moi, je ne suis pas d'origine libanaise, comme beaucoup de Libanais. Et je suis née à Beyrouth et la guerre a commencé, j'étais enfant. Je n'ai jamais quitté mon pays, mais le fait de ne pas avoir de racines libanaises et le fait de vivre cette guerre a provoqué chez moi une espèce de rage de justement de reconquérir ce pays, c'est-à-dire de le faire mien. D'abord parce qu'il était en souffrance et ensuite parce que certainement je n'avais pas les racines assez profondes. Mes racines, elles étaient ailleurs. Et donc ça a déclenché chez moi une espèce de curiosité. Vous savez, quand on est la guerre au Liban a profondément divisé les Libanais, ce qui fait qu'il y a beaucoup de régions qui nous étaient inaccessibles. Donc, dès que la guerre s'est terminée, j'avais déjà deux enfants, un enfant et puis après l'autre est arrivé très vite. J'ai eu juste envie de leur faire découvrir et de découvrir moi-même ce pays que je connaissais si peu finalement. Comme si on me l'avait arraché et comme si vous retrouviez quelque part quelque chose. Et donc je me suis lancée dans une profonde recherche sur le terrain mais aussi dans les archives. Et ça a développé chez moi une espèce de curiosité et d'envie de partager mes découvertes, voilà. Ce qui fait que j'ai commencé à faire des articles dans les journaux. D'abord, j'ai fait du journalisme pendant longtemps. C'était surtout du journalisme patrimonial. Et ensuite, j'ai fondé une maison d'édition en 2003. Donc, elle a déjà 15 ans. Et j'ai eu juste envie d'écrire des livres sur Beyrouth, de publier des livres sur le Liban. Voilà, il y a donc dans cette maison d'édition, il y a beaucoup de choses qui sont sur le Liban. Il y a de la littérature, donc voilà. Et aujourd'hui, je poursuis cette mission, si vous voulez, entre guillemets, mais aussi avec l'envie de faire connaître tout ça au reste du monde.
Alors, la littérature que vous pratiquez s'adresse aux enfants en particulier ?
Nous, en fait, on fait des livres très divers. On a commencé par faire des livres pour enfants qui étaient surtout articulés autour de l'identité méditerranéenne et surtout pour les pays destinés aux pays qui parlent deux langues, qui sont parfaitement bilingues, qui parlent le français et l'arabe. Donc, il y en a quand même pas mal entre le Maroc, la Tunisie. Et ce qui est étrange, c'est qu'au Liban, on n'a pas énormément de rapports avec les pays d'Afrique du Nord, avec le Maghreb, etc. Donc j'avais envie juste d'instaurer ces rapports culturels. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On s'est beaucoup rapprochés, mais avant, il n'y avait pas beaucoup de rapports. Et donc, on a commencé par faire une collection, enfin que j'ai écrit, de 3 livres pour enfants, justement, sur le thème de l'identité méditerranéenne. Donc l'enfant avec la mer, l'enfant méditerranéen, ses rapports avec la mer Méditerranée, avec la végétation méditerranéenne, avec les droits de l'enfant dans cette région du monde. Et j'espère continuer. Maintenant, je me suis un peu arrêtée parce que j'ai été occupée à publier les livres, à éditer les livres d'autres personnes. Mais j'espère continuer dans cette série parce qu'elle a eu beaucoup de succès, surtout pour les enfants qui avaient envie d'avoir les deux langues sur la même page. Voilà.
Alors, culturellement, parce que je crois que la France a beaucoup marqué le Liban, qu'y reste-t-il de la France dans le Liban d'aujourd'hui ?
Alors au Liban, on aime bien dire qu'on est trilingue parce qu'on parle effectivement le français, l'arabe et l'anglais et surtout on l'apprend à l'école. On a plus d'heures de français que d'heures d'arabe. Donc les matières par exemple sont enseignées en français, on a pas mal de... bien que l'arabe soit la langue officielle. Mais en fait, moi je pense qu'on n'est pas trilingue, on est plutôt triculturel. C'est-à-dire, on a véritablement épousé, adopté la culture anglo-saxonne et la culture française, francophone en tout cas. Et on est très férus de livres qui viennent de France, de magazines qui viennent de France, de films qui viennent de France. Et je pense que nous enlever ça serait vraiment enlever une bonne partie de l'identité libanaise. Nous sommes très attachés à ça et c'est une manière de vivre qui vraiment nous colle à la peau et qui vraiment fait partie de nous. On ne peut pas amputer cette partie-là. Elle est essentielle pour nous.
Alors, vivre au Liban aujourd'hui, comment le vivez-vous ? Est-ce qu'il existe encore des tensions ou des tensions reviennent à cause de ce qui se passe en Syrie à côté de ce pays ?
Oui, bien sûr. Le Liban a subi énormément la guerre syrienne. D'abord par l'afflux de réfugiés. On a quand même... Vous imaginez si en France, vous êtes combien ? 66 millions Imaginez que vous receviez tout d'un coup en 3 ans 33 millions de réfugiés. C'est quand même destructeur et inabsorbable. Et en plus, nous avons quand même beaucoup d'interactions avec la guerre syrienne. La vie politique chez nous s'est complètement éteinte depuis 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de président de la République. Mais c'est tributaire de la guerre en Syrie. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de tensions. On commence à sentir surtout des tensions économiques, c'est-à-dire on a vraiment du mal aujourd'hui à lever la tête. Mais vous savez, le Liban, ses premières tensions. Ça a commencé avec l'arrivée des Palestiniens, etc. Donc je crois que ce qui distingue le Liban aujourd'hui, c'est que bien sûr nous vivons dans une région terrible et que toute la région aujourd'hui est complètement secouée, elle est défigurée, elle est totalement remodelée, elle n'existe pas, il n'y a plus de pays qui tiennent debout. Mais je pense que ce qui caractérise le Liban par rapport à d'autres pays, c'est peut-être que la société civile chez nous, elle est tellement habituée à vivre des choses qu'elle est devenue une société civile extrêmement résiliente, extrêmement résistante. Elle fait des choses, elle est dans l'action tout le temps. Et nous avons surtout ce qui s'est passé avec... Donc la société civile a toujours été très active, mais ce qui s'est passé surtout avec le début de la guerre de Syrie, c'est une profonde, profonde rage de... créer. Donc il y a aujourd'hui au Liban une faculté de création qui moi-même me surprend tous les jours. On crée des musées, on est en train des expositions, des foires d'art contemporain, des salons du livre, des salons de culture. Vraiment, c'est inouï de voir cette augmentation de la créativité chez les jeunes, chez les moins jeunes. Je crois que c'est notre manière de ne pas mourir et surtout de résister à ce qui se passe.
Si je vous entends bien, on pourrait penser donc que économiquement le Liban est quand même assez exsangue. Et malgré tout, vous trouvez les moyens de créer des lieux culturels. Comment peut-on se faire une idée de cette contradiction ?
Écoutez, on a toujours fait le grand écart. Et ça, c'est quelque chose qui nous caractérise. On est devenu très souple. Alors, on fait le grand écart sans arrêt. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Nous avons un secteur touristique, un secteur hôtelier assez important. Nous avons beaucoup d'hôtels qui se sont reconstruits après la guerre ou construits de nouveau. L'année 2010, 2011, 2012, on avait énormément de touristes. Ça reprenait, tout le monde était heureux, etc. Et puis, pouf, depuis la guerre en Syrie, il n'y a plus de touristes, évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est que les Libanais, au lieu de se lamenter ou de se laisser aller au désarroi ou à la fatalité, ils se sont mis à bâtir un tourisme interne. Donc aujourd'hui, vous avez des auberges, des maisons d'hôtes, des gîtes qui se sont construits partout au Liban, et les Libanais se sont mis à voyager eux-mêmes, donc ils jouent eux-mêmes les touristes dans leur propre pays. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on résiste. Et puis, vous savez, le problème, c'est que dans la région où l'on vit, il y a vraiment beaucoup d'obscurantisme. Il y a des extrémismes qui sont en train de naître, qui font peur à tout le monde. L'Europe est la première visée et l'Europe est la première à en avoir peur. Mais ils sont à deux pas de chez nous. Hein. Donc, si vous voulez, notre manière de résister, c'est vraiment d'opposer une culture à toute épreuve. Et quand je vous dis à toute épreuve, je n'ai jamais vu ça. Moi, ça fait quand même pas mal de temps que je suis née et que je vis au Liban. Je n'ai jamais vu cette rage. On a chaque jour l'inauguration. Il y a trois jours, une semaine, le ministre de la Culture, à qui je rends hommage parce que M. Araïji, il est vraiment très actif, il a inauguré les sous-sols du musée libanais où la collection, il y a une collection absolument formidable. Le ministre de Tourisme n'arrête pas de... Cette année, on a eu à peu près une centaine de festivals de musique, de culturel. Dans chaque village, il y avait un festival. C'est notre manière de résister, c'est notre manière de dire non. Non, non à la mort, non à la destruction, oui à la vie. Et voilà, je pense que c'est la seule façon aujourd'hui de nous opposer à cette guerre horrible qui secoue toute la région.
On va revenir sur vous, Tania. Et donc... depuis quand avez-vous ce goût pour la littérature, l'écriture ?
En fait, moi, j'ai toujours aimé les livres, c'est surtout ça. J'ai été passionnée de livres, je crois que c'est génétique, parce que le père de ma grand-mère avait une librairie à Istanbul. Et dans les années 20, on lui a brûlé, elle a brûlé, et il est mort devant. Il n'avait que 33 ans. Je pense que génétiquement, il m'a donné un peu cette... Je sais que c'est les livres, quand j'étais petite, par exemple, que la guerre a éclaté, que mes parents étaient très désemparés, que tout le monde criait dans la maison, que tout le monde pleurait, qu'on ne savait pas quoi faire. Moi, j'étais sous le bureau de mon grand-père. Je lisais toute la bibliothèque de mon grand-père. Ce n'était pas du tout de mon âge. Mais je sais qu'à 8 ans, j'avais déjà lu tout Zola, Balzac, Mauriac. Et ça m'a donné envie de faire des livres mes amis, mes compagnons. Donc en fait, c'est plus que l'écriture, c'est surtout les livres. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses autour. J'ai été critique littéraire, j'ai été dans un magazine pendant 3 ans. J'ai été, je dirigeais moi-même le magazine, j'ai été éditeur et j'ai été auteur. Je ne suis pas vraiment dans la littérature moi-même, c'est-à-dire que je n'écris pas des romans, mais j'écris plutôt des livres sur Beyrouth, sur les habitudes libanaises, des livres plutôt historiques. Je prépare maintenant un livre sur l'archéologie parce que c'est magnifique ce qu'il y a au Liban. Et je fais surtout des projets pour que justement, je suis très, très enthousiaste de mon pays. Je suis une amoureuse du Liban. Et je fais justement des projets toujours pour que les Libanais ne se découragent pas, pour montrer au reste du monde que nous sommes un peuple formidable, que le Liban est un pays extrêmement intéressant et surtout extrêmement riche de son histoire, de son peuple, de tellement de choses. Je peux en parler pendant des jours et des nuits.
Donc ce goût pour le livre vous a amené peut-être en France pour étudier la littérature ou vous l'avez apprise au Liban ?
Oui, en fait, j'ai fait des études de lettres au Liban. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène surtout en France, c'est d'abord parce que mes livres sont en français. Donc, j'édite des livres francophones. Et qu'aujourd'hui, j'ai juste besoin de sortir un tout petit peu de ma région, c'est-à-dire de montrer quand même aux pays francophones, dont évidemment la France, nous avons des auteurs merveilleux, que nos livres méritent d'être découverts, que voilà, c'est une manière, c'est mon travail un petit peu d'éditeur, de prendre de mon baluchon et mes livres, de mettre les livres de mes auteurs dedans et d'aller les montrer combien ils sont riches, beaux et peuvent être d'un intérêt certain, peut-être. C'est ma mission, si vous voulez, quelque part.
Alors, par rapport à ce qui se passe actuellement en France, on parle de tensions, de peur aussi. Est-ce que vous y trouvez des similitudes avec ce qui se passait au Liban en période de guerre, ou même aujourd'hui avec ces tensions dues au flux migratoire des réfugiés? Est-ce que vous avez des choses à dire aux personnes qui sont françaises et qui vivent en France? Prendre garde à quelque chose en particulier peut-être?
Bien sûr, parce que je pense que nous, pendant des années, depuis 1975, en tout cas, on a essayé de nous diviser. Le Liban, vous savez, c'est 18 communautés. Et aussi un melting pot de gens venus de tous les endroits du monde, surtout de la région, donc les Arméniens, des Égyptiens, etc. Et la guerre a été juste, sur le but ultime de la guerre, premier et ultime, était de diviser les Libanais. Et ça s'est produit à par intervalles. Évidemment, on s'est massacré, on s'est tué, on s'est fait la guerre, on s'est combattu. Mais on est quand même encore ensemble. On n'a pas réussi à nous diviser. Et aujourd'hui, le vivre ensemble, pour nous, revêt une symbolique très particulière. On a appris à vivre ensemble. Et aujourd'hui, on ne prendra pas les armes les uns contre les autres. Ça, j'en suis certaine. Il continue à avoir des tensions, évidemment. Il continue à avoir des provocations. Mais on a compris. On a compris qu'on ne peut que vivre ensemble. Donc, on a appris la tolérance par rapport aux autres religions. On a appris la manière de vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment ça s'apprend. Quand j'entends, par exemple, aujourd'hui, et surtout, on ne s'est pas enfermé dans des extrémismes, on ne s'est pas isolé. Ce qui me désole aujourd'hui en France, moi personnellement, c'est de constater que les gens ont tellement peur, mais c'est très humain, qu'ils sont en train de s'enfermer dans des sortes de réactions un tout petit peu extrémistes. Et ça, il ne faut surtout pas, parce que vous allez être tout le temps provoqué par la haine, par le mal, par des actes de haine, et il faut surtout opposer à ça l'amour et l'entente, aller vers l'autre et surtout pas s'isoler. Parce que si on s'isole, on meurt. Même si on s'isole parce qu'on a peur. La peur est le plus grand ennemi aujourd'hui. Je comprends, nous avons eu peur nous aussi. Mais finalement, au final, aujourd'hui, nous avons compris que si on nous avait divisés et si on était restés chacun dans son canton, dans son coin, on n'aurait jamais pu vivre. On n'aurait jamais pu avoir un pays aujourd'hui. On aurait été très, très isolé et surtout très faible. Donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut juste aller vers l'autre, essayer de comprendre, essayer d'analyser les raisons pour lesquelles, par exemple, des jeunes sont en train d'aller rejoindre l'État islamique. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Est-ce que le système, votre système qui donne la liberté, peut-être ne donne pas des ailes? Je ne sais pas. Il y a certainement des choses à réfléchir. Et je pense qu'en France, il y a assez de sociologues, de psychologues, de gens intéressants. Vous êtes une société extrêmement riche pour pouvoir se pencher sur ça. C'est ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi ces jeunes sont en train de se faire sauter et tuer des gens? Il y a un problème. Il y a quelque chose à voir là-dedans, je pense.
Et mis à part une certaine presse spécialisée dans ce qui est de la philosophie et même de l'humanité, tout simplement, qui traite de l'humanité, ils sont bien rares en France. Hein, on est noyé sous un flot d'informations effrayantes qui tendent vers rien, en fait. Alors, je voulais savoir, au Liban, comment vous dites que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de pouvoir en place. Comment perçoit la population cet état de fait?
Au début, bon, vous savez, comme je vous dis, la population, la société civile a appris depuis longtemps, elle a adopté le système D, on est très débrouillard, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, mais on se débrouille tout seul depuis le début de la guerre. Donc si vous voulez, au début, ça n'a pas vraiment posé un problème. Mais aujourd'hui, il y a quand même un vide politique qui commence à nous faire peur et qui commence à être assez difficile à vivre, puisque ça entraîne beaucoup de choses. Il n'y a pas de président, donc il n'y a pas d'ambassadeur, donc il n'y a pas de signature de certaines lois. Donc il n'y a pas de... Voilà, ça commence à devenir assez pesant. Et aujourd'hui, les Libanais, ils sont un peu fatigués parce que combattre tous les jours, pas avec des armes, mais avec d'autres armes, combattre tous les jours des choses et descendre dans la rue pour réclamer des choses et voir que finalement, il n'y a personne, il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est quand même usant. Donc, surtout qu'on a justement des choses... Des gros dossiers à gérer, comme les réfugiés syriens, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au bout de notre patience par rapport à l'État. Et je sens, moi, que les choses vont commencer à bouger parce qu'il nous faut un président. Mais le problème au Liban est beaucoup plus profond que ça, vous savez, parce que nous avons la même classe politique depuis 40 ans. Et donc, ceux qui ont fait la guerre, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et ça, déjà, à la base, c'est une grosse erreur. Il faut rectifier ces choses-là. Mais la société civile bouge. La société civile commence à se politiser. Avant, elle bougeait dans le sens des associations, dans le sens des causes, des combats à mener. Aujourd'hui, elle bouge dans le sens de la politique. Et aux dernières municipalités, aux dernières élections municipales de Beyrouth, il y a un groupe formé de la société civile qui ne sont absolument pas dans la politique, qui s'est présenté. Ça a fait un gros tollé au Liban et les mentalités commencent à évoluer et à changer. Donc moi, je suis assez optimiste par rapport à l'avenir. C'est juste le présent qui est un petit peu aujourd'hui délicat, puisque nous, comme on nous dit tout le temps, on est tributaire de la région, on est tributaire de ce qui se passe en Syrie, on est tributaire de ce qui se passe, de la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Enfin bref, on nous raconte tellement de choses et finalement, un jour, il faut que le peuple reprenne son destin politique en main. Parce que son destin vital, il l'a pris. Et son destin économique, il l'a déjà pris. La société libanaise a énormément de pouvoir, la société civile libanaise. Il faut juste qu'elle s'en rende compte et qu'elle l'étende aussi au domaine politique. Voilà, ça c'est mon combat, moi, de tous les jours. Et je voulais aussi vous raconter une anecdote, parce que c'est quand même pas mal. Je suis tellement francophone moi-même, et vous parliez de la culture francophone la dernière fois. Ça fait tellement partie de moi que j'ai remarqué quand j'écrivais qu'à chaque fois que j'écrivais Beyrouthin, il y avait un soulignage rouge. Et un jour, j'ai ouvert les dictionnaires français et j'ai réalisé que Beyrouthin n'existait pas dans les dictionnaires français. Donc ça m'a un peu surpris, parce que c'est vrai que les gentilés, tous les gentilés, on appelle gentilés les habitants des villes, ne sont pas dans le dictionnaire, mais Beyrouthin quand même, on nous semble francophone, on l'écrit. Donc j'ai écrit des lettres à l'Académie. L'Académie m'a envoyé un petit peu promener. J'ai écrit des lettres à Larousse et au Robert pour leur dire que voilà, quelles sont vos conditions pour qu'un livre entre dans le dictionnaire. Ils ont été assez réceptifs, ils m'ont répondu. Les conditions étaient remplies depuis très longtemps. Donc j'ai fait signer des pétitions, j'ai lancé des choses, j'ai écrit des lettres et le Larousse a été extrêmement coopératif. Je remercie beaucoup les éditions Larousse. Et le mot Béroutin est dans le dictionnaire Larousse depuis juin. Donc dans l'édition 2017, Béroutin est là, habitant du Liban et adjectif, nom et adjectif. Donc voilà, je suis très très contente. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire très symbolique.
Alors, suite à tout ça, vous avez aussi, vous êtes rédactrice en chef de deux magazines culturels, Esquisse et Alinéa. Vous pouvez nous présenter un peu ces sites
J'ai dû arrêter parce que j'ai plus tellement le temps entre les ouvrages que je fais moi-même, les mouvements que je lance et l'édition. Je n'ai plus trop le temps malheureusement, de me consacrer à des magazines. Le magazine Esquisse a dû fermer aussi pour des raisons économiques. Alinéa a s'est transformé, il est devenu différent. Donc j'ai dû arrêter malheureusement de. Mais je dirige quand même les éditions Tamiras qui ont un média que vous pouvez suivre sur tamiras.com. TAMYRAS.com. Et de temps en temps, ma plume de journaliste ressurgit et je fais des coups de cœur, des coups de gueule, des critiques littéraires. Je ne parle pas que des livres de Tamiras, je parle beaucoup aussi de livres qui m'ont plu, qui m'ont interpellé, qui. Voilà.
Dans votre littérature, vous traitez de la culture libanaise. Et donc, pour chaque ouvrage, vous procédez comment ? Vous allez vers les Libanais, les Béroutins, et vous étudiez la vie au quotidien des Libanais et puis vous essayez de les transmettre par écrit ?
En fait, moi, quand j'étais journaliste, pendant quand même 15 ans, donc, dans divers magazines, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, j'essaye d'utiliser ces recherches-là pour essayer d'aller encore plus loin, d'approfondir les connaissances qu'on peut avoir de Beyrouth et des régions libanaises. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les régions libanaises sont tellement riches et variées qu'on peut consacrer vraiment des ouvrages énormes, entiers, plein d'ouvrages pour chaque région. D'abord, le Liban a une très très belle histoire, ce qui fait qu'il y a énormément de vestiges partout au Liban. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez aller dans un village, on va vous montrer les vestiges, on va vous montrer des ruines, on va vous montrer. C'est un des plus vieux pays au monde quand même. Et ensuite, il y a un vrai patrimoine religieux, c'est-à-dire entre les mosquées, les temples, les églises, les cathédrales, il y a énormément de choses à voir. Les Libanais sont très religieux. Depuis très longtemps, il y a énormément d'églises, de mosquées qui ont été érigées, qui sont encore là et qui sont magnifiques. Le Liban est aussi très, très riche par son patrimoine naturel. Donc, il y a énormément de fleuves. On est le seul pays dans la région à être à avoir autant d'eau. On a des fleuves, des rivières, des sources, c'est magnifique. Et aussi, nous avons aussi un patrimoine culinaire qui est hyper intéressant et qui est très différent d'une région à une autre, un peu comme la France, mais en condensé. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire que moi, je pense que toute ma vie ne suffira pas pour écrire tous ces ouvrages. J'aime beaucoup le terrain aussi. Je fais beaucoup de terrain. J'essaie de faire le maximum possible de terrain. Je vais à la rencontre des gens, je leur parle. Je vois un petit peu leurs problèmes, comment ils font pour préserver leur environnement et comment les femmes font pour subvenir aux besoins de leur famille, comment les hommes survivent. Voilà, c'est extrêmement intéressant. C'est un challenge tous les jours et moi, je suis... Par exemple, maintenant, j'ai fait un livre sur Beyrouth il y a 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, je suis en train de faire un livre sur Tripoli, qui est la deuxième ville du pays et qui est très méconnue encore. Et qui avait assez mauvaise réputation puisqu'il y avait pas mal de combats il n'y a pas longtemps dans deux quartiers, mais qui est une ville extraordinaire à découvrir et que voilà qui mérite vraiment le détour.
Concernant les gens qui cherchent à saper ce qu'est le Liban ou à le détruire, quelles sont les armes que vous avez actuellement physiques ou au sens figuré que vous avez contre eux pour vous en départager.
Je ne crois pas que le Liban est aujourd'hui, en tout cas, avant oui, mais certainement, mais aujourd'hui je ne pense pas que le Liban est spécifiquement visé. Mais je crois qu'il fait partie d'un plan régional, puisque si vous regardez bien la région aujourd'hui, elle est dévastée. Donc le Liban encore est un îlot qui survit, encore, malgré tout. On n'a pas vraiment les problèmes qu'ont les autres pays autour de nous. Mais moi, je crois que la meilleure de nos armes, c'est notre culture. Et le fait que, voilà, nous sommes aujourd'hui, il y a au moins 30 ou 40 invités libanais qui se retrouvent à 10 pour parler de leur pays. Donc, nous, je pense qu'on est extrêmement... voilà notre arme, la principale et la plus importante et celle qui a toujours, toujours réussi et fait du Liban un pays qui n'est jamais mort, qui est jamais mort. Parce que cette culture libanaise, le fait de rayonner, le fait de pouvoir... On ne peut pas rester au Liban, c'est-à-dire qu'on a l'artiste libanais, l'auteur libanais, il a envie d'aller montrer ailleurs son talent, ce qu'il sait faire. On l'a toujours fait, on a toujours été des ambassadeurs, on a toujours voyagé, on adore parler de ça, on est des passionnés. Et le Libanais est vraiment passionné. Et je crois que c'est ça notre arme. Et ça a toujours été ça, notre formidable envie de vivre, notre formidable résilience et notre formidable culture.
Le Liban, comment arrive-t-il à vivre encore aujourd'hui, économiquement et puis culturellement, mis à part qu'il y a une grosse présence de la culture dans la population, mais vis-à-vis des pays à l'étranger qui certainement se sont désintéressés du Liban, est-ce que c'est ça ?
Je pense que le Liban n'a pas attendu que les gens s'intéressent ou ne s'intéressent pas à lui. Parce que quand on avait la guerre en 1975, pendant 15 ans, on a eu la guerre. Bon, à part, beaucoup de pays nous ont accueillis, ont accueilli beaucoup de Libanais qui sont quand même partis, etc. Il n'y avait pas un grand intérêt pour la guerre. C'est-à-dire que c'était tellement compliqué que je pense que les gens abandonnaient l'idée d'aider ce pauvre petit pays. Mais je crois que c'est pas... aujourd'hui, on ne sent pas qu'il y a un désintérêt par rapport à nous. On sent juste que nous, on est en train d'absorber les conséquences d'une guerre qui n'est pas la nôtre, qui aujourd'hui se passe sur le sol syrien, et qu'aujourd'hui il y a 2 millions de réfugiés syriens. Si jamais ils ne rentrent pas chez eux, ça va être une catastrophe nationale et régionale, parce que personne ne peut absorber 2 millions de personnes qui sont sans travail, qui n'apportent rien au pays et qui sont juste des personnes qu'il faut aider. Nous ne pouvons pas le faire. Et déjà, on sent au niveau de la... D'abord, le Libanais, il faut juste que je vous dise que le Libanais est très empathique du peuple syrien. C'est-à-dire, nous sommes extrêmement désolés de ce qui arrive. Nous sommes horrifiés par ce qui arrive à Alep et nous sommes encore plus horrifiés par l'indifférence du monde. C'est un scandale, mais c'est horrible. C'est plus qu'un scandale. C'est absolument inqualifiable, le silence du monde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais au-delà de ça, à part l'empathie qu'on peut ressentir pour ces pauvres gens qui ont tout perdu et qui ne savent pas où aller, il y a aussi quand même des petits problèmes qui se posent, des grands problèmes qui se posent. Par exemple, les Syriens, il faut qu'ils travaillent, donc ils sont en train de prendre un peu la place des Libanais, ils sont en train d'aller sur des chantiers. Donc voilà, il y a, on sent aujourd'hui une espèce de petit malaise économique au sein de la société par rapport à cette présence syrienne. Mais encore une fois, les Syriens ont été empathiques. C'est juste l'État qui a très mal ou pas du tout géré cette situation-là.
Et quand vous rentrez au Liban, c'est avec la joie ?
Toujours. Le Liban, je le porte en moi de toute façon. Donc que je reste un mois dehors ou une semaine ou deux, c'est la même chose. J'essaie toujours d'être une bonne ambassadrice, de parler vraiment de mon pays, etc. Parce que je crois qu'il le mérite. Et je crois que vraiment, le Liban aujourd'hui peut être un vrai exemple. On a passé par tellement d'épreuves, comme la division, comme la peur, comme l'accueil des réfugiés, comme l'intégration, comme ça. Qu'aujourd'hui, on a dépassé tout ça et qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a nous-mêmes des choses à apprendre aux autres et surtout dans la résilience de la société civile, dans cette formidable activité. Vous savez, en France, il n'y a pas beaucoup, et surtout ici, j'ai remarqué dans cette région, La société civile est très active aussi. Il y a énormément d'associations qui sont en train de faire des festivals. On m'a raconté tous les festivals que vous avez à Die et dans le Diois. C'est formidable. Et donc, je pense que la seule chose qui manque à la société civile aujourd'hui, dans le monde, je ne parle pas chez nous ou en France, au Liban ou ailleurs, c'est de savoir qu'elle a vraiment du pouvoir. Aujourd'hui, on a du pouvoir. On n'est pas juste des gens qui sont soumis à des lois ou qui sont dans un système qui nous limite. On a du pouvoir. Et voilà, et c'est ça que la société civile... Moi, c'est ce que j'essaie de faire au niveau de mon pays. Ça veut dire à la société civile, mais prenez les rênes. Mais en tout cas, vous les avez prises. Mais prenez-les aussi politiquement, parce que c'est le peuple aujourd'hui qui doit décider de son sort et pas certaines personnes au pouvoir. Vous savez, les systèmes... Nous sommes dans une ère où les systèmes s'effondrent. Le système politique s'effondre, le système économique s'effondre, le système sociétal s'effondre, le système scolaire s'effondre. Donc nous devons très vite rebâtir quelque chose qui nous ressemble aujourd'hui. Nous sommes des gens instruits, cultivés, intelligents, nous avons accès au monde. Donc il faut profiter de ça pour se débarrasser de la peur, pour ne pas s'isoler, pour tendre la main aux autres et pour refaire de l'amour et du bien nos valeurs. Parce que quand vous avez la haine en face, le mal, etc., vous pouvez vous calfeutrer chez vous, mais vous pouvez aussi opposer l'amour et le bien. Et ce sera toujours plus fort que la mort et la haine, je pense.
Il y a un facteur aussi, c'est l'intelligence.
Mais je pense qu'on est des peuples beaucoup plus intelligents qu'avant. Je crois qu'on a accès à l'intelligence. Je crois qu'on nous a assez répété de travailler sur nous-mêmes. Toutes ces années de développement personnel, toutes ces années de travail ont dû donner quand même quelque chose. Moi, je parle avec des gens partout, que ce soit au Liban ou dans les provinces libanaises, dans les villages ou en France. Je vois que des gens intelligents autour de moi. C'est juste qu'il y a un facteur de peur ici. Nous, on n'a pas ça au Liban. C'est-à-dire, on n'a pas peur. On est parfois fatigué, on n'a pas de peur. Mais aussi, il y a un peu de peur, je sens. Mais l'intelligence, elle est là. Il faut juste poser les bonnes questions. Vous savez, je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Ni ici, ni dans le reste du monde. Quand vous voyez les élections américaines, par exemple, où ça en est aujourd'hui, etc., je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui tourne pas rond dans cette petite planète.
Et le modèle islandais, qu'est-ce qui vous inspire ?
Le modèle économique et le peuple a pris le
pouvoir, justement. Ouais.
Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut agir. Maintenant, en Islande, c'est peut-être plus simple parce qu'ils n'ont pas vraiment de problématiques qu'on rencontre, que vous rencontrez en France, qu'on rencontre au Liban. Donc, c'est peut-être plus simple. Mais c'est sûr que c'est un modèle à suivre. Mais je crois que les Islandais devraient un peu sortir de leur Islande et venir nous enseigner ça. Ils sont dans leur petit pays et ils ne bougent pas trop. Peut-être qu'ils devraient plus communiquer. Parce que moi, je pense qu'il y a des modèles... je pense qu'il y a une vague qui va arriver. Ce qui m'a frappé ici, dans le Diois, c'est que j'ai vu beaucoup de jeunes qui apparemment vivaient là, qui avaient choisi de retourner à la terre, qui avaient choisi de renoncer à la sécurité des villes ou à la ferveur des grandes villes. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit que, voilà, ils ont refusé le système pour entrer dans un système qui leur ressemble aujourd'hui, le retour à la terre, le retour aux valeurs, etc.
C'est même un système qu'ils créent eux-mêmes.
Voilà, la seule chose qu'il faut faire, c'est justement ne pas s'enfermer dans ce système. Parce que si chacun de nous crée son propre écosystème et vit tout seul, ça ne pourra pas marcher. Il faut vraiment faire quelque chose d'universel. On a quand même aujourd'hui une mission quand on arrive sur Terre. Pas de s'enfermer chez soi et de vivre comme on a envie, mais aussi quelque part de changer un peu les choses, de laisser sa marque, de laisser sa trace, de dire que moi, j'ai compris que le retour à la Terre était... primordial, mais je vais aussi inciter d'autres personnes à le faire. Je vais en parler, je vais dire, on s'est trop éloigné des vraies valeurs, vraiment. Et je crois que c'est ça que nous disent aujourd'hui les attentats de Paris. Je crois que c'est ça que nous disent les jeunes qui sont en train de rejoindre l'État islamique. C'est qu'ils ne se retrouvent plus dans le système d'aujourd'hui parce que il y a pas les vraies valeurs, elles se sont un peu diluées, disons.
Je ne connais pas le Liban, mais est-ce que médiatiquement, il existe quoi? Une télévision, une radio, le...
Oui, il y a beaucoup de médias.
Oui.
Il y a beaucoup de médias. Il y avait une très grande presse. Parce que nous, ce qui est bien au Liban, c'est que c'est un des rares pays de la région qui n'a pas une censure sévère. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait des guerres dans les pays de la région, tout le monde venait se réfugier au Liban pour écrire, pour faire créer des journaux, etc. Donc c'était quand même, il y a eu pas mal de liberté d'expression. Maintenant, ce qui est déplorable, c'est que les médias, la plupart du temps, sont assujettis à un parti politique. Et donc, c'est un peu la guerre des médias. Mais de plus en plus, on se rend compte de l'absurdité de la chose. Et il y a des médias. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des médias en trois langues. Donc, il y a la presse en trois langues. La télévision, un petit peu moins, c'est plus arabe. Mais il y a quand même des émissions en anglais et en français. Mais la presse, elle est en trois langues. Vous avez beaucoup de magazines en français, vous avez beaucoup de magazines en anglais, vous avez beaucoup de magazines. En fait, ce qui est sympa, c'est que les langues se sont elles-mêmes, elles ont elles-mêmes pris leur place. C'est-à-dire, tout ce qui est mode, culture, est plutôt en français. Tout ce qui est économie, etc., c'est plutôt en anglais. Donc, ça s'est pris et ça s'est fait comme ça. Donc, l'anglais au Liban est la langue du business. Le français est la langue de la culture. Et l'arabe est la langue de tout le monde. Donc voilà. Donc c'est intéressant.
Voilà. Et donc votre venue, et vous venez souvent en France, hein, vous me le disiez tout à l'heure, au moins 4 fois par an, c'est ça, je crois.
Oui, minimum.
Voilà, minimum. Et donc vous avez affaire à des personnes en France à qui vous présentez un peu ce que vous faites, mais aussi vous êtes représentante du Liban auprès d'eux. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écoutée, voire même d'avoir un relais en face de vous pour porter la parole en France?
Il y a un énorme relais en France. D'abord, il y a l'Office du tourisme du Liban dont le directeur Serge Aal arrive demain. Adi, donc qui est un des parrains de ce festival, qui est très actif. Donc il accueille énormément de c'est un peu la voix du Liban en France. Il accueille énormément de Libanais qui viennent présenter leurs livres, des concerts, des expositions, des bons. Et il y a beaucoup de Libanais qui vivent à Paris et en France et qui sont déjà qui ont fondé des associations franco-libanaises et qui promeuvent le Liban en France, qui aident les Libanais qui arrivent en France, etc. Et il y a beaucoup d'artistes et de peintres et d'écrivains qui vivent en France de façon permanente et qui tout le temps font, par exemple, je pense à une grande dame de la littérature que j'ai le plaisir d'éditer moi-même. Je lui ai édité 4 de ses livres, qui a une très belle rétrospective à l'Institut du monde arabe à partir du lundi 17, donc lundi. Qui est El Adnan. Il y a tout le temps des choses qui se passent autour de la diaspora libanaise. Moi, je viens juste faire un petit pont entre les Libanais du Liban et j'essaie de faire un petit pont et les Libanais et Paris et la France surtout. Et j'ai beaucoup d'écho parce que c'est des organismes qui sont déjà là. Mais de plus en plus, je trouve intéressant. Pendant les années, j'étais à Paris, j'ai fait les salons du livre de Paris, etc. Mais aujourd'hui, je trouve beaucoup plus intéressant les festivals comme le vôtre, les salons de littérature qui sont plus excentrés, ils sont beaucoup plus à l'écoute, ils sont beaucoup plus curieux, ils ont plus le temps d'écouter. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour moi et pour les auteurs libanais, et pour n'importe quel auteur, en fait, de venir, comme on est venu aujourd'hui, Adi, parce que notre voix est beaucoup, beaucoup, notre message est mieux perçu, plus entendu. Je préfère maintenant les festivals comme ça.
Est-ce que vous vous destinez à la politique de votre pays?
Non, pas du tout, mais je pense que tout ce qu'on fait est politique. La politique, elle est partout. Mais aller me présenter aux élections, etc., non, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je suis activiste, oui. J'ai lancé un mouvement il y a 4 ans qui s'appelle Positive Lebanon. Donc, le Liban positif. Où justement je mets en avant les activités concrètes de la société civile. J'organise énormément de rencontres autour de ça. Je viens d'inaugurer mon site internet qui s'appelle positivelebanon.com, où justement la société civile peut s'exprimer, peut dire par exemple, voilà, nous avons fait cette initiative. C'est pas la pensée positive, c'est l'action positive. C'est ça la différence. C'est pas que je suis une personne positive. Non, non, non. C'est que je fais des actions positives. J'agis pour mon pays. Et donc, je tiens aussi une rubrique dans le quotidien de langue française au Liban, où je mets en avant toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent tout seuls, sans aucune aide, aucune subvention, pour faire avancer le pays. Et je peux vous assurer que c'est souvent une gageure de faire des événements culturels. C'est souvent très difficile parce que d'abord, on ne sait pas dans quel état de tension on va être. On ne sait pas si l'événement aura lieu ou pas. On ne sait pas et on n'a aucune aide de l'État. La culture n'a aucune aide de l'État. Même si le ministre de la Culture et le ministre du Tourisme sont extrêmement coopératifs, on n'a quand même aucune aide financière, aucune subvention, rien. Voilà, donc c'est vraiment des initiatives tellement personnelles. Chapeau vraiment à la société civile libanaise.
Alors là, nous arrivons à la fin de l'heure, hein, et donc je le rappelle aux auditeurs, vous êtes cofondatrice des maisons d'édition Tamiras.
C'est ça.
Et vous avez une collection qui se trouve en France, c'est
Oui.
distribué en France, cette édition.
Bien sûr, nous sommes dans plusieurs librairies en France et nous sommes aujourd'hui, nous avons le trois quarts de nos ouvrages qui est exposé au Théâtre de Die, dans la librairie, donc le Bazar des Mots. Et nous sommes disponibles aussi par Internet. Donc, si vous rentrez sur le site tamiras.com, nos ouvrages sont tout à fait disponibles, livrables partout. Donc voilà, on peut très bien se procurer les ouvrages partout. Nous faisons aussi des livres électroniques. Tous nos romans sont en livre électronique. Et notre catalogue est disponible en ligne, tamiras.com. C'est intéressant parce que c'est des livres qui sont la plupart du temps. Nous n'avons pas une grande production, nous faisons 10 à 15 livres par an. Mais chaque livre est tellement choisi et sont des livres dont les thématiques intéressent certainement toute la région. Et voilà, ce sont des messages qui sont intéressants, enfin j'espère. En tout cas, à découvrir.
Est-ce que la culture du livre est encore très forte au Liban?
Oui, parce que nous, on a commencé quand on a senti que le TGV du livre électronique allait arriver. On s'est dit, oh zut, alors on va le prendre parce que sinon on va rester sur le quai. On l'a pris, donc ça fait 6 ans qu'on fait du livre électronique, mais bon, on vend toujours les livres papier et il y a les librairies. Il y a des librairies qui sont très actives au Liban. Malheureusement, il y en a qui ferment, oui, comme partout, parce que pour des raisons économiques. Mais les Libanais lisent beaucoup. Ils lisent en 3 langues. Et c'est surtout l'édition qui est très forte. Il y a 700 maisons d'édition au Liban, dont plus, il y a 900, dont 600 actives. Bon, évidemment, pas tellement en français, mais quand même, il y en a 6 ou 7 qui font des livres en français, mais c'est énorme. Les Libanais éditent énormément de livres, destinés au monde arabe. Voilà. Avant, on disait toujours que les Égyptiens écrivent, les Libanais éditent et les Irakiens lisent. Malheureusement, aujourd'hui, les Irakiens sont. Leur pays n'est pas en très bonne forme, donc ils lisent plus, mais on a quand même un marché irakien, un marché arabe assez intéressant. Et c'est des Libanais qui éditent beaucoup de livres. Donc le livre se porte bien au Liban.
Et Tania, une dernière question. Est-ce que vous rêvez en français?
Oui, je rêve en français. Moi, je viens d'une famille où on parlait à la maison, on parlait français et grec. L'arabe aussi, bien sûr, dans la rue, l'arabe avec beaucoup de gens, etc. J'adore la langue arabe, c'est une langue que j'aime énormément parce qu'elle est très belle. Elle a beaucoup de. Si vous voulez l'entendre, vous pouvez entendre une chanson de Fayrouz, qui est notre grande chanteuse nationale. C'est très beau, c'est très mélodieux. C'est une langue très, très, très riche. Mais j'écris, je lis et je rêve en français, oui. Et je voudrais que le français soit encouragé au Liban. Je voudrais vraiment que le Liban garde cette richesse qu'il a de tout ce qui est francophone.
Eh bien, Tania, dit Thomas, mais Anna, merci d'être venue à Erdiwa.
Merci à vous.
Et je vous
pour l'accueil.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1. Terre.
Okay, bye-bye.